sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan. Réalisation Olivier Guérin. Ce soir, Fabienne Pascoe et Elisabeth Franck-Dumas se font face à notre affiche « Une vie ». Deux et mise en scène Pascal Rambert, c'est au théâtre du Vieux Colombier, la Comédie Française. Comme une pierre qui, d'après Graïl Marcus, adaptation mise en scène Marie Raymond et Sébastien Poudreau au studio théâtre de la Comédie Française. Nous évoquerons aussi plus rapidement la bibliothèque La Nuit, exposition du metteur en scène Robert Lepage à la Bibliothèque Nationale de France et les Nuits de Fourvière, le grand festival de la métropole de Lyon. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler des écoles de théâtre. En fin d'émission, Boris Pinault passera un coup de fil à Olivier Atlan, directeur de la Maison de la Culture de Bourges. Et puis, il y aura des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Grand Final de Fechester, mercredi 14 juin, 20h30 à la Villette à Paris. Direction le Vieux Colombier pour commencer, salle du 6e arrondissement de la Comédie Française pour y découvrir la nouvelle création de Pascal Rambert qui a donc écrit et mis en scène Une vie, quelle vie ? Celle d'un peintre interprété par Denis Podalydès qui répond aux questions d'un journaliste de radio interprété par Hervé Pierre dans un décor qui pourrait rappeler notre studio, mais alors beaucoup, beaucoup plus grand, beaucoup, beaucoup plus blanc également. Un spectacle qui débute en même temps que cette émission, je parle de celle de la pièce, qui va durer près de 2 heures, je parle toujours du spectacle, au cours de laquelle l'intervieweur aura bien du mal à obtenir des réponses de son invité, comme ça arrive d'ailleurs. Parfois, au cours de cet entretien, des fantômes, des présences d'êtres chers ou détestés, parfois les deux en même temps, vont également se manifester.
Il n'y a plus d'humains. Non, il y en a eu pourtant, et beaucoup.
Oui,
il n'y en a plus.
Non, on ne sait pas où ils sont. Si, ils doivent être... ils sont bien quelque part. Il faudrait retourner voir les premières images. En même temps, retourner voir les premières images.
Vous parlez d'images ?
Oui, je fais des images. Ce sont des images. On fait tous des images.
Enfin, tout le monde ne fait pas des images comme...
Si.
Bien, et donc c'est...
Oui, on fait des images. D'autres se racontent des histoires. Vous savez, tous ces gens qui tiennent des journaux intimes... Ils se racontent des histoires à eux-mêmes, ils écrivent pour eux leur petite histoire, et après ils relisent comme ça, enfin ils se relisent. C'est dur de se voir. Donc, ceux qui se racontent des histoires, et ceux qui font des images. Chacun
ça. C'est amusant pour préparer l'émission. J'ai lu que...
Ah non, ça, il faut arrêter ça tout de suite. Toutes ces références, vous avez dit un jour que... Vous vous rendez compte? Imaginez quelqu'un qui s'approche de vous dans la rue en vous pointant du doigt, qui dit « Tu as dit ça le 17 juillet à 13h et puis tu as dit ça le mardi 8 janvier à tel endroit. » Non, non, il ne faut porter aucun crédit. Je n'ai rien dit, je ne lis pas non plus.
Vous ne lisez pas ce qu'on écrit sur vous?
Non, oui, c'est tragique. Ça vous fait rire?
Oui. Vous voulez dire que...
C'est tragique.
Passons de la radio à la radio, sur scène, celle écrite par Pascal Rambert à cette émission de la dispute. Alors Fabienne Pascoe, je vous ai déjà lu dans Télérama, alors pour maintenir un peu de suspense, je vais peut-être demander à Elisabeth Franck-Dumas de commencer sur ce spectacle signé Pascal Rambert.
Oui, alors ce spectacle c'est drôle, vous disiez que l'interview était représentative de certaines situations réelles que peuvent vivre des journalistes. Moi j'ai trouvé au contraire que c'était un fantasme d'interview, puisqu'on est face à un peintre figuratif qu'on devine assez célèbre, qui est qui est un petit peu énigmatique, qui se prête de mauvaise grâce à ce jeu, mais qui va finir par faire dérouler, par faire intervenir tous les personnages clés de son existence, qu'ils soient vivants ou morts, par dialoguer avec eux. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, on ne saura jamais vraiment pourquoi il se prête à cet exercice. Je trouve que l'ensemble a quelque chose d'assez artificiel. On enchaîne des passages obligés, des personnages qui finalement sont des types, la mère castratrice, le frère haï, la jeune amante abusée. Et en dehors du fait que, bon, évidemment, ça arrive trop rarement, hélas, ce genre de déroulé dans une interview réelle, j'ai passé un long moment à me demander si la pièce était finalement totalement au second degré. Tant elle mélange quelques jolies envolées lyriques, mais plombées par des phrases assez ahurissantes, gênantes même parfois, enfin des propos que je trouve un peu datés sur la création, sur la peinture. Je pourrais vous en faire un florilège, je ne sais pas si ça serait bon, on ne peint toujours que le sexe de sa mère. La critique sont des chiens qui vous attrapent par le pantalon, la jeune amante disant elle ne supporte pas que je fasse jouir son fils, etc. Et qui étouffe en fait finalement les quelques passages, voilà, les quelques fulgurances du texte. Finalement, bon, au bout d'un moment, on est obligé de trancher. Ce n'est pas du second degré, c'est plutôt une sorte de théâtre de boulevard intello, où alors parfois on se surprend à rire, on se dit bon, on a presque honte de rire. À d'autres moments, on s'ennuie. Le paradoxe, c'est que les comédiens sont formidables. C'est-à-dire que Denis Podalydès, encore une fois, j'ai pas totalement cru à son personnage, parce que finalement je comprends pas très bien à quel jeu il est en train de se livrer, ni ce qu'il fait là, ni pourquoi, mais il a une présence extraordinaire. Voilà, on se distrait en le regardant observer les autres. La mère castratrice, jouée par Cécile Brune, alors le personnage est totalement caricatural. À partir du moment où on accepte la caricature, ben elle fait ça formidablement bien. Donc on la regarde, on la dirait sortie d'un tableau de Manet, enfin je sais pas, avec son grand chapeau. Il y a un problème, il y a quelque chose d'un peu anachronique aussi, il y a un mélange d'époques comme ça. Des litanies qui reviennent, des moments du texte qui font penser à Thomas Bernard, on revient tout le temps sur le grand...
Qui aimerait faire penser à Thomas Bernard.
Voilà, c'est un peu le problème, le grand appartement de la rue de Lille, bon. Et donc, je suis restée totalement en dehors, finalement. Bon. De la pièce.
Ne restez pas en dehors de cette dispute, Fabienne Pascaud.
On ne va pas se disputer, non. On est complètement d'accord. Ouais. On est totalement d'accord, je suis désolée Arnaud. D'ailleurs,
moi aussi je suis désolée. Mais c'est normal d'inscrire une nouvelle création de Pascal Rambert au programme de cette émission.
Oui, mais Pascal Rambert, il se répète, il adopte des recettes qui ne conviennent pas toujours. Là, il après avoir fait avec beaucoup de succès, Clôture de l'amour, c'était magnifique, qui était une séparation via deux monologues très violents que se lançaient les deux amants, ou plutôt le mari et la femme qui allaient se quitter. Ensuite, dans Répétition, il a repris à peu près le même système avec quatre personnages. Là, il fait un effort, il revient à la forme dialoguée, mais avec tellement de clichés, tellement de banalités dans ce qu'il dit, et c'est tellement peu tenu, parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, les personnages qui arrivent, les fantômes importants qui arrivent à la queue leu-leu, des caricatures de personnages. Lui-même est le personnage interprété par Denis Podalydès, cet artiste, ce plasticien complaisant, satisfait de lui-même, qui ne dit que des banalités vraiment sorties de tout ce petit monde de l'art contemporain dont on ne sait pas si Pascal Rambert se moque ou si au contraire il veut le porter au nu. L'interview qui est censée se passer sur un plateau d'une rare laideur depuis que Pascal Rambert signe ses scénarios et ne fait plus confiance à Daniel Jeannetot, qui était quand même bien meilleur pour faire ses spectacles à Gennevilliers, pour en assurer la scénographie. Là, c'est vraiment très très moche. Hervé Pierre, si on interviewait nous dans nos métiers comme Hervé Pierre interroge Denis Podalydès,
on ferait
pas long feu. Donc voilà, que dire de plus. Moi, je n'ai même pas trouvé les comédiens bons à part Denis Podalydès, mais il est surtout bon quand il se tait. Donc ce qui pose les limites du texte, c'est vrai qu'on le regarde écouter. il écoute comme personne, et ça c'est magnifique. Et puis, ces envolées dans le texte que vous évoquiez, c'est même totalement incohérent, parce que il y a du Novarina, il y a du Thomas Bernhardt, enfin, il y a tout et n'importe quoi, et il ne s'est pas trouvé, il ne s'est pas cherché, il a voulu... C'est peut-être une autobiographie, une autofiction, peut-être qu'il raconte ses propres tourments et ses propres affres de créateur, mais alors là...
Peut-être qu'il y a un problème de mise à distance, hein. Moi, je crains qu'il n'y ait guère de dissensus dans notre appréciation. Vous avez oublié, depuis Répétition, il y avait eu aussi Argument, où il était revenu
exactement
à la forme dialoguée. Vous aviez plutôt aimé, ou je ne
pas
me souviens
trop,
plus,
oui,
pas trop non pas plus,
trop,
avec
trop.
Laurent Poitrenot.
Mais un peu plus que ça.
Un peu plus que ça. Pas...
Un peu plus que vous, si je me souviens bien.
Oui, beaucoup plus que moi, je crois. Et moi, j'allais plutôt avec envie voir ce spectacle Une vie, parce que il y a beaucoup de spectacles de Pascal Rambert que j'ai beaucoup aimé depuis, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant, plutôt 20, que l'on peut en voir. En plus, c'est vrai que toute la distribution, moi, sont des comédiens et des comédiennes que j'apprécie, notamment Alexandre Pavlov, qu'on voit beaucoup trop rarement, qui hélas n'a pas le plus beau rôle à tous les sens du terme dans ce spectacle-ci, puisque joue le méchant frère devenu prêtre et plein de haine et dans un registre d'excès extrêmement monotone, en tout cas pour sa partie. J'ai essayé de dire du bien, ce que j'avais pas forcément prévu. Moi, le début du spectacle, le début de la pièce, de la représentation, je me suis dit qu'il pouvait se passer quelque chose. Cette situation d'interview, quand je disais des interviews, ça arrive. Je parlais de d'artistes qui parfois sont récalcitrants à répondre aux questions. Ça arrive quand même très fréquemment.
Certes. La suite. Qu'on leur pose des questions,
voilà,
ils n'en posent
on
pas.
On leur pose des questions. Je me suis dit que bon, il y avait une situation qui pouvait, et on serait resté peut-être dans un face-à-face entre Hervé Pierre et Denis Podalydès, l'intervieweur, et le peintre. Il aurait peut-être pu se passer des choses qui m'auraient passionné. Effectivement, la première apparition, c'est celle de la mère. Et donc, on voit qu'on part dans un assez long monologue. Quand elle sort, il y a de nouveau un petit peu l'interview. On voit arriver un deuxième personnage. On se doute et on a raison qu'il va y avoir un deuxième long monologue. Il y a toujours ce systématisme qui est à l'œuvre depuis quelques temps chez Pascal Rambert, qui, pour moi, devient un peu lassant, je dois le dire. Mais c'est vrai que, quand vous parlez de litanie, obliger ses interprètes à apprendre par cœur plusieurs pages de noms de plantes, voilà, c'est de la virtuosité mémorielle.
Mais
c'est
écrit sur mesure, paraît-il.
Pour les comédiens, il a dit qu'il a écrit pour cela. Non, je ne vois pas bien, effectivement, à quoi ça sert un moment de virtuosité assez creuse. Quant au... Effectivement, vous avez cité ce passage sur « On ne peint que le ciel que sa mère » et il revient à l'histoire de l'origine du monde chez Lacan, caché par un paysage.
Oui, très fier d'avoir trouvé.
Donc toujours, dans tout paysage, en fait, c'est un sexe ouvert qui est peint par le peintre. Enfin, ce sont des propos comme ça qu'on entend. Et je me demande comment il peut faire énoncer à ses interprètes des truismes, soit des choses qui paraissent en effet extrêmement datées. Alors peut-être qu'il faudrait reconsidérer votre proposition, Elisabeth Franck Dumas, peut-être complètement au second degré, cette pièce.
Mais je pense que ça tient un moment seulement, cette interprétation-là. Et quand bien même
aussi
ce serait totalement du second degré, est-ce que c'est très intéressant? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant de mettre comme ça une foule de personnages dont finalement on va se moquer. Or, ils ne se moquent pas tous deux. Enfin, non, et là, ça ne tient pas. Et à partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas cette piste-là, je trouve que ça se casse la figure.
Bon, on n'a pas beaucoup de choses à ajouter, Fabienne Pascot.
Rien à ajouter.
Bon, quand même aller jusqu'à 22h, hein, mais ça va, il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. N'insistons pas davantage, puisque voilà, il n'y a pas d'autres... Il y a certainement des gens qui vont dire « Ah, ils exagèrent la dispute, ils sont tous contre Pascal Rambert, alors que c'est formidable, il y a des tas de bonnes critiques, c'est vrai, j'en ai lu dans Le Monde, j'en ai lu dans Le Figaro,
oui,
j'en ai lu ailleurs. »
Oui,
très bonnes
des
critiques, donc
même.
Il faut... Bon, mais c'est un hasard de programmation, les auditeurs pensent que... Je vous ai convié pour que vous disiez du mal de Pascal Rambert. Vous savez qu'on ne prête beaucoup d'attention. Mais on a programmé cette émission et votre présence avant de découvrir ce nouveau spectacle.
C'est gonflé, voilà, d'appeler ça une vie quand même. Parce que Maupassant l'a fait avant lui. Il n'a pas,
oui,
pas de honte.
C'est un beau... Oh, mais c'est pas le problème, ça.
Oh, bah, si,
c'est un
ça
beau
fait
titre.
Partie de la prétention
parce
du
personnage. Parce que le fait est que c'est quand même le sujet. C'est la vie de ce peintre.
Oui. Bon.
Bon, c'est moi qui... Je défends Pascal Rambert sur ce titre. Une vie. Il se trouve que le texte est édité aux Solitaires Intempestifs et que ce spectacle est représenté au Théâtre du Vieux Colombier à la Comédie Française jusqu'au 2 juillet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, nous parlerons, alors ça j'ai plus le bon programme, c'est le copier-coller de la semaine dernière, ça n'a pas eu tout. Nous parlerons donc de Comme une pierre qui, de la bibliothèque La Nuit, des Nuits de Fourvière, avant d'entendre Olivier Atlan. Mais avant cela, nous sommes invités à suivre Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Bon, mi-juin, je vois pas pourquoi, mais avec vous, ce soir, on va à l'école.
Oui, on va à l'école de théâtre. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'ouvre de plus en plus, ces écoles de théâtre, notamment les écoles publiques de théâtre. Elles sont 13, ces grandes écoles publiques. C'est ce que recensait Benjamin Roure dans Télérama il y a 10 jours. 3 en région parisienne. Je vais pas toutes les citer. Il y en a 2 à Paris, 1 à Asnières. Il y a l'école de Strasbourg, l'école de Lyon, l'école de Rennes, celle de la Comédie de Saint-Étienne, de Cannes, de Montpellier, de Bordeaux, de Limoges, de Lille et d'Agen, finalement. 13 écoles, donc supérieures de théâtre à diplôme national, qui préparent en 3 ans à tous les aspects du métier, et bien sûr d'abord celui de comédien. Or, si leur répartition, vous l'avez entendu, ne témoigne pas forcément d'une volonté de quadrillage du territoire, leur politique est en train de changer. Depuis quelques années, ces écoles auraient ainsi trouvé une nouvelle jeunesse et capacité d'ouverture, d'école ascenseur pour les très tôt, disait ainsi Télérama, et ceci grâce à une nouvelle génération de directeurs et un nouveau parti pris pédagogique, disons moins académique. En tout cas, c'est ce qu'avance en partie Arnaud Meunier, qui est le directeur depuis 2011 de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, où dès la deuxième année, là, les élèves travaillent sur leur propre production. Nous formons des acteurs créateurs, dit Arnaud Meunier, à la fois interprètes et porteurs de projets. Ils ne doivent pas être de simples objets au service du metteur en scène, mais actifs dans l'écriture au plateau. En cherchant ces dernières années, on trouve d'ailleurs cette nouvelle génération de directeurs assez fréquemment, née dans les années 60-70, particulièrement proche de la nouvelle scène théâtrale européenne et qui a eu, semble-t-il en tout cas, pour mission de renouveler l'enseignement du théâtre. Ce sont par exemple Stanislas Nordet au TNS de Strasbourg, donc depuis 2014, un peu un modèle du genre, hein, selon Rue 89, qui disait d'ailleurs à l'époque être venu plus pour l'école que pour le théâtre. Il y a aussi l'école du théâtre de l'Union à Limoges qui est dirigée par Jean Lambert-Wilt depuis 2015. Alors le premier à Strasbourg, plus résolument contemporain que l'autre à Limoges, mais tous les deux témoignant d'un souci d'ouverture renouvelée, soit dans le recrutement des élèves, soit dans les collaborations nationales ou internationales. L'année dernière, d'ailleurs, Télérama remarquait ces écoles de théâtre qui veulent mettre plus de diversité sur scène grâce à une adaptation du recrutement et des concours, notamment plus fins et moins académiques. Par exemple, une classe prépa à l'école de Saint-Étienne ou ce fameux dispositif premier acte qui est mise en œuvre notamment au TNS, mais pas seulement, également à Cannes, en partenariat avec la Grande Banque Rothschild ou la SNCF pour permettre à de jeunes acteurs, je cite, « ayant fait l'expérience d'une discrimination, de venir jouer au moins 2 semaines en atelier ». J'ajoute, concernant les écoles privées, qu'elles sont 7, qu'elles proposent toutes des années environ 5000 euros, avec pour certaines des méthodes là de jeu bien identifiées, comme l'école du jeu, justement, par laquelle est passée, je le souligne, Garance Marillier, qui est l'actrice principale de Grave et qui, elle, prépare en ce moment l'école de Strasbourg. L'ouverture, donc, semble la règle. C'est le cas aussi, pour finir, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il faut en parler, parce que c'est un peu un cas d'école. Avant la nomination de sa directrice Claire Lannes à sa direction en 2013, l'Institut était en effet miné par une longue polémique sur la pédagogie et la politique de son ancien directeur, le comédien Daniel Mesguich, évincé donc avec à la fin une lettre très dure des élèves au ministère de la Culture, qui dénonçait, je les cite, une école coupée du monde et une méfiance envers le contemporain, donc un peu tout le contraire de ce qu'on évoquait avec Strasbourg. À l'époque, les élèves tremblaient devant ce qu'on appelait la méthode Mesguich, là c'était encore Télérama qui le disait en 2009. Aujourd'hui, c'est le premier concours, j'en ai passé plusieurs, et où j'ai montré quel acteur je peux être. Il n'y a plus ici de profil dominant ni d'emploi type, et les élèves sont sans doute de la matière plus brute qu'autrefois, rapportait un des élèves. Voilà, vous l'avez entendu, ouverture, voire discrimination positive, qui ne va pas sans tiraillement. également, notant Cortilérama en 2016, l'été dernier. Les lettres des élèves recalés au concours à Stanislas Nordet à Strasbourg en témoignent, qui répondaient un peu agacés. Leur souci était de savoir si, à qualité égale, et s'ils avaient été noirs, ils auraient été recalés quand même, raconte le metteur en scène un peu amer, on l'entend. Cela ne les a sans doute pas dérangés, que pendant des décennies, continue-t-il, le recrutement soit monocouleur. Alors, quelle autonomie donnent ces écoles aux élèves? On pourra en reparler, mais la question est celle-ci. Cette ouverture, si elle existe, effectivement, vous semble-t-elle nécessaire?
Ah bah, nécessaire. Alors, nécessaire, oui. Bon, je le dis tout de suite comme ça, pour parler de ce que fait Claire Lane d'Arcueil au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle ne souhaite plus s'exprimer sur cette question, puisque l'école parle pour elle. C'est aussi une forme de réponse. Précision aussi pour dire que Stanislas Nordet a été très longtemps directeur de l'école du Théâtre National de Bretagne, avant d'être directeur du TNS et donc de l'école du TNS. Et donc il y a vraiment déjà beaucoup, beaucoup de comédiennes et comédiens, ou apprentis comédiennes et comédiens, qui sont passés par son enseignement. Alors, comme Télérama a été extrêmement cité, Fabienne, ascenseur pour les tréteaux, c'est vous qui aviez trouvé ce beau titre.
Ce titre magnifique.
C'est beau, hein.
Et puis on avait pas mal évoqué aussi l'opération Premier Acte, qui a quand même été formidable, hein, dans toutes les écoles que vous avez évoquées, Xavier, et au conservatoire en partie, au TNS, à la Comédie de Saint-Étienne, à Cannes, etc. Moi, ça me semble effectivement, c'est le nerf de la guerre, d'ouvrir à la diversité, d'ouvrir à de jeunes comédiens qui ne se sentent même pas le droit. C'est vrai que le rôle des comédiens noirs, on hésite tellement à leur confier des rôles qui ne soient pas marqués que c'est terrible pour eux. Ils s'auto-censurent. Donc, ce qu'il faut, c'est les pousser à oser. Et donc, que ces écoles fassent ce geste pour déjà leur dire que ça ne leur est pas interdit, c'est formidable. C'est formidable. Maintenant, alors, ça progresse un petit peu. Quand même à la Comédie française, quand il y a ce magnifique acteur noir qui sort de chez Peter Brook, comme par hasard, dans Hôtel du Libre-Échange, il fait quand même le rôle du domestique. Hein, bon, ça va, espérons que ça bouge de plus en plus et que bientôt cette diversité soit présente aussi à la direction de nos théâtres. Ce qui n'est pas le cas. Déjà, on peine à les voir sur scène, mais la prochaine étape, c'est qu'ils dirigent les lieux.
Oui, on peine déjà à voir des femmes diriger des lieux. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est... Mais enfin, ça commence quand même.
Oui. Nous sommes d'accord et c'est heureux, mais enfin c'est la question après de la discrimination positive qui est un immense débat.
Un immense sujet. Et je pense qu'il faut en passer par là.
Non, mais c'est un débat, en tout cas concernant Bakary Sangaré à la Comédie française. C'est vrai qu'il est souvent soit des rôles de bonimenteur, soit, alors j'ai pas encore vu L'Hôtel du Libre-Échange que je vais voir bientôt, mais ce qui est bien aussi, c'est de voir, comme c'était le cas à l'Odéon il y a peu dans Hôtel Feydeau, Soudain l'été dernier, c'est peut-être davantage le rôle, celui du docteur, c'est peut-être plus possible, quoique anachronique, le fait
est. Peter Brook qui monte un
Peter Brook depuis
noir,
très longtemps. Il ne faut pas attendre que ce soit Othello pour distribuer l'acteur noir qui est dans le paysage. Il faut que tous les emplois sont possibles pour toutes les personnes. Et là, on dit noir, blanc, on parle de tout type de diversité, y compris corporelle. La diversité, ce n'est pas juste noir et blanc. Hein, on le réduit souvent à cela. C'est loin d'être le cas. Elisabeth Franck Dumas.
Non, je vais beaucoup vous étonner, je suis d'accord avec vous.
Ah bon?
Donc, évidemment, on a un retard énorme d'ailleurs par rapport aux pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, évidemment, on va mettre une actrice indienne dans le rôle d'Ophélie, un acteur noir dans le rôle du roi Lear. Enfin voilà, on ne se pose plus ce genre de questions. C'est vrai qu'en France, c'est un petit peu honteux. Vous avez parlé de Premier Acte. Je crois aussi qu'à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, il y a une prépa intégrée. Il y en a une aussi à Bobigny qui prépare associée à la MC 93. Ça se multiplie, évidemment, on ne peut qu'applaudir. En revanche, je crois que Premier Acte, c'est un détail, mais c'est soutenu par la Fondation Rothschild.
La Fondation A.
Pas exactement.
Mais la Fondation SNCF aussi.
Qui ont toujours été, je crois que c'était eux qui étaient assez moteurs. Ils ont joué un rôle admirable. Libération avait modestement aussi fait un reportage. Frédéric Roussel avait assisté à pas mal de ces. Ce qui est intéressant, dans ces séances d'enseignement Premier Acte, on fait venir énormément d'intervenants, metteurs en scène, chorégraphes, enfin voilà, des gens du métier pour apprendre à ces classes qui sont finalement assez réduites. Je crois que c'est une quinzaine d'élèves, et c'est le moyen idéal pour les encourager à se présenter. Je crois que dans l'article que vous citiez, Arnaud Meunier disait que évidemment. Est-ce que c'est... Enfin, Stanislas Sordet posait la question du niveau. Bon, ben parfois, on peut se dire que tel ou tel comédien n'a pas encore acquis la technique parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'acquérir cette technique, mais on voit qu'il y a quelque chose et qu'il faut l'encourager. Et heureusement que les écoles favorisent ce genre de profil.
Xavier Martinet.
Oui, juste un point concernant la question de la lutte anti-discrimination. C'est vrai qu'elle a aussi lieu sur le plan de la discrimination sexuelle, et que pour le coup, je crois qu'au théâtre, à l'école du Théâtre National de Strasbourg, où on a des classes de 12 élèves dans la section jeu, précisément Stanislas Sordet a à cœur de mettre ensemble 6 filles, 6 garçons, pour être bien sûr qu'on ait cette parité respectée. Il me semblait, au-delà de cette question, enfin ça va ensemble d'ailleurs, je pense, qu'il y avait effectivement un travail de fond aussi sur la pédagogie qui avait été fait. Je l'ai évoqué assez rapidement. Il se dessinait déjà, là c'était très clair, dans ce qui se passait au Conservatoire National de Paris, avec notamment cette question de l'ouverture à la scène européenne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tous ces metteurs en scène qui sont devenus directeurs de théâtre et d'écoles de théâtre ont un lien privilégié avec effectivement cette scène européenne. Ça me semble un peu le problème, un problème assez similaire à celui qu'on avait avec le théâtre de Vidi, à savoir une institution plutôt bien ancrée avec un certain académisme. De quelle manière, dans quelles conditions doit-elle s'ouvrir à cette scène complètement exubérante, enfin depuis 10 ans maintenant, qui parcourt l'Europe et qui arrive un petit peu tard peut-être en France?
Vaste question.
En ce qui concerne les écoles, il y a un réel effort depuis peut-être 10 ans ou un peu moins pour multiplier les échanges, et pas seulement avec le reste de l'Europe, avec le reste du monde. Christophe Rauch a récemment emmené sa classe
à Moscou,
chez les Fomenko, et il y a eu un partage, je crois, extrêmement intéressant. Mais il y a pas, je crois, le Conservatoire
national, il y a Cuba, il y a Canada, il va y avoir l'Inde,
l'école de la Comédie de Saint-Étienne avec CalArts. Donc non, je pense que ça.
Mais ils n'ont pas trop de leçons à nous donner, parce que souvenez-vous que Luc Bondy, paix à son âme, le pauvre, mais une de ses dernières polémiques, ça avait été quand il voulait faire jouer Othello
par Philippe Torreton.
Et quand Thomas Ostermayer était venu nous montrer Othello, c'était aussi un acteur blanc qui jouait Othello. Et je me souviens, je lui avais posé la question, il m'avait quand même répondu, en me regardant droit dans les yeux, qu'il n'y avait pas d'acteur noir à Berlin. Donc c'était quand même, c'est quand même fou. Donc ils sont pas mieux
les Allemands,
grands européens,
Anglais, effectivement, de
oui,
ce côté-là.
Oui, les Anglais, ça c'est sûr.
La scène anglaise, elle est diverse, et la scène lyrique aussi anglaise, ça se renouvelle et ça s'ouvre de tous les côtés.
Oui, je termine juste en disant que, en tout cas, du côté des élèves, et c'est ce qui me semblait dans les témoignages qu'on voyait dans certains articles, notamment encore une fois avec ce fameux conservatoire, il y avait un désir et un appétit pour cette scène européenne.
Ah oui, bien sûr.
Surtout ça, voilà.
Ouverture de tous les côtés, de toute façon, c'est ce qu'il faut pour toutes les écoles, idéalement, pas seulement les écoles de théâtre. Mais ça, c'est un autre débat pour avoir dans d'autres émissions, notamment. Quelques recommandations au mi-temps de cette dispute. La première, c'est d'aller s'enfermer dans la bibliothèque la nuit, Fabienne Pascaud.
Oui, c'est une superbe exposition qu'a scénographié Robert Lepage, qui l'a présentée pour la première fois en 2015 à Montréal. C'est à partir du livre éponyme de Mengel sur les bibliothèques la nuit, les livres la nuit, parce qu'il parle de cette idée, Alberto Mengel, que on ne lit pas les mêmes choses la nuit, et non seulement on ne les lit pas, mais on ne les comprend pas même de la même façon. Donc à partir de ça, comme il vit au Canada maintenant et qu'il est très proche de Lepage, ils ont eu ensemble l'idée de cette exposition. Le page, c'est quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qu'on peut faire avec le numérique. Et peut-être avait-il un peu la peur que le livre numérique ne gâche le plaisir du livre papier. Donc, ils se sont mis ensemble pour composer cette magnifique exposition qui commence par un hommage donc aux écrivains, à la lecture, qui se poursuit dans une deuxième salle par la bibliothèque recomposée d'Alberto Manguel, La Nuit. Donc, avec c'est totalement onirique et totalement réaliste aussi, parce qu'on entend la pluie tombée, la nuit, on voit la voix d'Alberto Manguel chuchote à quel point la bibliothèque, l'organisation d'une bibliothèque est le portrait de son propriétaire, qu'on classe les livres comme on est. Et puis enfin, après cette salle totalement délicieuse, c'est le clou du spectacle, parce que c'est un divertissement en même temps. On rentre dans une forêt et avec des tables et des sièges de bibliothèque, des petites lampes, et on est invité à s'asseoir. Il faut vraiment s'asseoir, c'est très important. Et là, on a un casque en réalité augmentée, et puis des écouteurs sur les oreilles. Et on va visiter avec Alberto Manguel 12 bibliothèques, imaginaires ou réelles, que ça soit celle d'Alexandrie qui va prendre feu avec nous, que ça soit celle du capitaine Nemo au fond des airs. Et on est suspendu dans l'espace, c'est-à-dire que si on ne s'assied pas, on a le vertige, parce qu'on vole aux quatre coins de ces bibliothèques. C'est féerique et ça donnerait à n'importe qui le goût de la littérature.
Ah bah alors, il faut que tout le monde aille à la Bibliothèque nationale de France. C'est sur le site François Mitterrand que cette exposition est visible. Vous ne l'avez pas encore vue.
Non, absolument pas, mais vous m'avez donné très envie d'y aller.
Très envie. Hein. Ça va, vous avez jusqu'au 13 août. Oui. Pour découvrir la bibliothèque La Nuit, cette exposition conçue par le metteur en scène Robert Lepage et sa compagnie Ex Machina, avec inspiré de cet ouvrage qu'il faut absolument lire. De toute façon, il faut lire Alberto Manguel, parce que c'est quand même toujours à la fois un délice, un plaisir de la langue et puis un plaisir de l'érudition et de l'amour de l'érudition et enfin du plaisir, quoi, tout simplement. Donc, elle est visible, cette exposition, jusqu'au 13 août. Je profite aussi de ce moment pour dire que, alors, ces dernières années, nous avions la bonne habitude, à cette époque, de consacrer toute une dispute au festival Les Nuits de Fourvière, qui se déroule en toute la métropole lyonnaise. Alors, cette année, hélas, pour cause d'incompatibilité d'agenda, alors entre la programmation du festival et les agendas de nos critiques, moi compris, il a été impossible de renouveler cette expérience qui est pourtant toujours réjouissante. Bien partir en week-end avec nos camarades critiques. Je tenais quand même par ce coup de cœur à signaler le début de ce festival. Le programme est toujours extrêmement riche. Il fait bien sûr la part belle au théâtre et à la musique. Alors, il a débuté ce festival mercredi dernier. Fabienne Pascoe nous en dira quelques mots dans un instant avec Jusque dans vos bras, la nouvelle création des Chiens de Navarre. Il y a eu aussi une carte blanche à la jeune et brillante metteur en scène Lorraine de Sagazan, qui a repris ses mises en scène d'Ibsen. Cette semaine, on pourra découvrir par exemple une relecture version musique du monde de Don Giovanni de Mozart par l'orchestre Piazza di Vittorio. On pourra enfin découvrir les tragédies d'Eschyle, Sophocle et Euripide par la troupe enthousiasmante de Gwenaëlle Morin, parce que, alors, justement, je crois que c'était il y a 3 ans maintenant, nous avions été à Lyon. Nous avions assisté à la deuxième de ces représentations quand l'interprète principal s'est blessé au bout de 15 minutes de représentation et il devait jouer tout l'été. Ils n'ont pas du tout joué, donc c'est une très bonne nouvelle que ces tragédies antiques soient enfin visibles. Donc, elles seront présentées les 3 premiers week-ends de juillet au Théâtre du Point du Jour. Il y aura une carte blanche à Aurélien Bory. Il y aura aussi la dernière création en date du Cirque Plume. Il y a Félag, qui est l'invité d'honneur du festival, qui lui-même invite d'autres artistes pour plusieurs créations co-signées. Puis, côté musique, alors chacun y trouvera son plaisir parce qu'il y en a toujours pour tous les goûts. Benjamin Biolay, Goran Bregovic, Camille, Paolo Conte, Bob Wilson, voilà quelques-unes des têtes d'affiche, mais elles sont extrêmement nombreuses pour ce festival des Nuits de Fourvière qui dure jusqu'au 5 août, dans plusieurs villes de Lyon et de sa métropole. Alors Fabienne, vous avez vu cette nouvelle création des Chiens de Navarre jusque dans vos bras. Vous l'avez vu hier au soir, c'est bien
cela ? Hier au soir, oui, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ça sera présenté partout en France.
Oui, et puis ça va revenir au Bouffes du Nord à partir de novembre pour
ils tournent toujours beaucoup leurs spectacles et c'est tant mieux.
Donc, jusque dans vos bras, vous aurez compris que c'est une allusion à la Marseillaise, les féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes.
C'est
alors,
charmant.
Là, c'est une allusion non déguisée, visiblement, aux étrangers, aux réfugiés qui viennent pourrir cette identité française que nous avons tellement au cœur. Donc, vous aurez compris que c'est un spectacle très politique. Très. Alors, c'est ça qui est un petit peu troublant parce que les Chiens de Navarre, ils ont travaillé très en amont. Visiblement. Et quand le pays redoutait la vague Marine Le Pen, était même persuadé qu'elle risquerait d'être présidente, ou en tout cas...
Oui, ils ont commencé à travailler bien avant.
Exactement.
Ils ont travaillé très longuement.
Et alors aujourd'hui, et surtout, moi j'y suis allée hier soir, après le raz-de-marée macronien, on se disait que bon, ils étaient un peu en retard, quoi. Même si le danger, il faut toujours se méfier, mais il y avait ce retard du théâtre par rapport au travail de l'actualité et de la vie tout court. Moyennant quoi, le spectacle est quand même intéressant. Il va bouger. Hein. Ils vont le resserrer. Mais cette interrogation qu'ils ont sur tous les défauts, la xénophobie rampante, la détestation de l'autre, la peur de l'autre qui cache des faiblesses. Parce qu'on est toujours en empathie quand même avec les personnages, si odieux soient-ils, des Chiens de Navarre. La troupe a changé. Ouais. Les quelques grands anciens vont nous manquer, mais il y a des nouveaux formidables. Il y a un géant tout à fait hallucinant qui interprète le général de Gaulle, parce que on voit 2m46 et 58 de pointure. Donc il y a Jeanne d'Arc, il y a tout, il y a plein de choses drôles. C'est encore un peu long et ça, je suis sûre qu'au Bouffes du Nord, ça sera épatant quand vous pourrez le découvrir.
Bon, très bien. Et puis le fait est que si c'est plus d'actualité ou c'était plus d'actualité hier soir,
tant
on
mieux.
On peut craindre que ce le soit à nouveau dans
l'avenir.
Non, mais je le souhaite pas. Mais je crains que les vagues électorales ne dissipent pas les fonds des problèmes.
Exactement.
Nous sommes d'accord. Bon, eh bien, écoutez, on a hâte de découvrir. Enfin, moi, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle création des Chiens de Navarre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant, théâtre et musique, véritablement, avec Comme une pierre qui, spectacle créé il y a bientôt 2 ans et qui n'a cessé de tourner d'ailleurs depuis, avant de revenir au studio théâtre de la Comédie Française où l'avait été créé. Rappelons que Marie Raymond et Sébastien Poudroux, qui co-signe l'adaptation de ce texte de Graine Marcus, avaient créé avec Clément Bresson 2 spectacles, André, sur la figure d'André Agassi, et Vert Vanda, consacré lui à Barbara Loden et à ce film Vanda, cet unique film qu'elle a réalisé, 2 spectacles dont on a parlé évidemment beaucoup sur cette antenne. Cette fois, Marie Raymond et Sébastien Poudreau se sont plongés dans le livre du fameux critique rock Graine Marcus, qui raconte la session d'enregistrement de la chanson de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, en 1965.
C'est comment le début?
Vous avez pas eu la structure?
Non.
Ah, bon, Like a Rolling Stone, en gros c'est une montée, une descente, do ré mi fa sol, fa sol, fa sol.
Combien de mesures de fa? Combien de mesures ça?
Deux mesures de fa, deux mesures de sol, deux mesures de fa, deux mesures de sol. Ensuite il y a la descente.
C'est ternaire, binaire?
Ouais. Et donc ensuite il y a la transition qui reste à définir, et le refrain c'est tout con, c'est un 4-5, c'est genre la bomba quoi. Enfin, c'est la bomba. C'est la bomba. Hier soir, j'étais dans mon lit et je me suis dit, Mike, demain, tu vas te retrouver dans le meilleur studio de New York avec les meilleurs musiciens pour jouer la bamba. Surtout qu'à la base, moi, je suis pas très fan de Dylan. Je trouve les musiques sur ses albums absolument nazes, avec sa voix nasillarde qui dérisse le poil. Et puis je l'ai rencontré et j'y croyais pas. Le mec est vraiment sympa. On a parlé de Sleepy John Estes, des premiers disques du rock, d'Elvis. Un mec nerveux, un dingo. Alors la veille de l'enregistrement, je vais chez lui et il me fait écouter Like a Rolling Stone pour que j'essaie de piger le concept. Je croyais qu'il voulait du blues avec du bending sur les cordes. Et là, il me dit non, mec, je veux pas de tes trucs à la Muddy Waters, à la B.B. King. Je fais que ça d'habitude. Qu'est-ce qu'il veut, le gars?
Bon, il faut s'arrêter là parce que la musique de l'extrait s'arrête là, mais pourtant on en entend de la musique dans ce studio théâtre de la Comédie Française. C'était bien qu'après une fort longue tournée, ce spectacle qui a été créé là, y revienne, parce qu'il a fait ça le comble dès le début. Alors, tiens, Fabienne Pascaud. Je ne sais pas si vous avez un goût pour le dernier prix Nobel de littérature en date, Bob Dylan. Ils l'ont créé avant, il faut le rappeler.
Moi, je ne suis pas une Dylanienne convaincue, j'ai un peu honte.
Plus Leonard Cohen, vous.
Voilà. Non, et puis surtout, pendant ma longue histoire avec Télérama, je dois reconnaître que j'ai eu l'occasion de travailler avec le... pendant de très longues années, avec le père de Marie Raymond, qui n'est autre qu'Alain Raymond, qui était rédacteur en chef à
Télérama.
Alors là,
vous me l'apprenez.
Un dingue de Dylan.
Ah,
donc,
d'accord.
Il nous a bassinés pendant des années avec Dylan.
Marie,
donc,
la fille
franchement,
d'Alain.
Ça m'aurait un peu dégoûtée. Mais je suis quand même allée, je ne suis pas allée à la création, parce que je me suis dit non, Dylan et la famille Raymond, merci non. Mais là, j'y suis allée, grâce à vous.
Très gentiment demandé.
Voilà, tout à fait. Et je dois dire que ça m'a bluffé, le spectacle. Ça m'a totalement bluffé. Marie Raymond, c'est quand même une fille très, très pertinente, parce qu'elle fait des choses assez fines, assez subtiles. Ce qu'elle avait fait sur Agassi, qu'elle interprétait lui-même.
Elle-même
était quelque chose de tout à fait étonnant, sur Barbara Loden aussi. Et là... elle fait cet exercice assez improbable d'une session en temps réel avec où elle nous raconte comment un chef-d'œuvre va se créer avec des musiciens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la partition et un chanteur vedette qui ne leur parle pas. Donc ça semble totalement improbable et on se dit mais mon Dieu comment ça va se passer et le miracle naît. Donc la création peut naître de petites choses comme ça, totalement hasardeuses, et ça redonne goût dans la vie, justement, ça, parce que rien n'est fait pour que ça marche, et ça marche. Mmh. La chanson de Dylan, elle est étrange, elle est bizarre, on la réentend mieux. Il faut dire que moi, j'ai été complètement fascinée par la troupe du français. Stéphane Varupen, entre autres, il est prodigieux, il joue
à la guitare.
Tous à la guitare, et Poudérou en Bob Dylan. Alors, on se dit, ce qui est formidable dans cette période où actuellement les biopics au cinéma se multiplient et où tous les comédiens se croient obligés de ressembler à la ride près au personnage, lui, quand on le voit, il lui ressemble pas tant que ça. Il a les lunettes noires, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud, beaucoup plus beau. On se dit, ça le fait pas du tout. Et puis ça le fait.
Et puis il devient Dylan. Sébastien Poudreau devient Dylan.
Voilà, donc ça, chapeau, ça, c'est dû à son travail, c'est dû à la direction de Marie Raymond. Et c'est toujours jouissif pour des spectateurs d'assister à un moment de création. Comment ce miracle naît, comment naissent les chefs-d'œuvre. Donc pour ça, ça vaut le coup.
Ah, si on vous a réconcilié avec les Raymond et Dylan, alors là, franchement, ça vaut le coup. Elisabeth Franck Dumas.
Oui, bon, j'avais pas besoin d'être réconciliée avec Dylan, que j'aime beaucoup. Moi, je suis quand Dylan.
Mais ça peut être un problème pour voir ce spectacle aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de le voir. Moi, je l'avais raté à sa création. Ce qui est intéressant, c'est de le voir maintenant, après que Dylan a obtenu le prix Nobel de littérature. Là, pour le coup, l'actualité vient enrichir le spectacle plus que le rattraper, parce que je trouve que la distance vis-à-vis du personnage de Dylan est vraiment juste la bonne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de respect, mais un respect qui n'a rien d'obséquieux.
Pas du tout.
Il est pris avec énormément d'humour, ce mélange de respect et d'humour, juste à la bonne distance. voilà, cette espèce de pitié mutique qui communique par sifflement d'harmonica. En même temps, on y croit. Il est absolument jamais ridicule. Il y a ce morceau de bravoure où il se lance dans l'ode à Woody Guthrie qui est vraiment...
Là, la virtuosité n'est pas vaine.
Ah non, là, c'est extraordinaire. Et justement, c'est génial de voir ça après l'obtention du Nobel, de voir cette manière très faussement légère, faussement décousue de raconter ce qui s'est passé. On a l'impression d'assister autant à l'écriture d'une chanson qu'à une écriture de plateau. Il y a des effets miroirs entre l'écriture musicale et l'écriture théâtrale qui s'attachent ici à des détails prosaïques, l'attente, les ratés, les monologues de chacun. C'est cette manière d'aborder le sujet qui fait qu'on a vraiment l'impression d'assister à une improvisation et qui rappelle en cela quelque chose aussi de l'expérience théâtrale. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est assez savoureux de voir ça aujourd'hui, c'est que tout le monde a l'air de se poser les mêmes questions que le monde entier s'est posé il y a quelques mois. Mais qu'est-ce que racontent les chansons de Dylan? D'ailleurs, lui-même, je ne sais pas si vous avez écouté, il a envoyé un petit discours audio. Alors vraiment, ça vaut le coup.
Ben oui, je crois. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Moi, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on se rend compte, mais c'est pas le sujet de. C'est pas
le sujet. Atterrant, d'autres formidables.
Moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'on se rend compte de combien Dylan, l'écriture de Dylan, a été influencée par Melville. C'est incroyable. Il cite énormément de phrases tirées de Moby Dick et on se dit, mais c'est fou. Je n'avais jamais remarqué. Il écrit comme Melville. Mais vraiment, enfin, c'est saisissant. Mais la conclusion de son exposé, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir ce que racontent les chansons. Il a bien raison. Bon, il l'a toujours dit, il le répète, mais c'est vrai que c'est drôle là de les voir. Alors les comédiens disent non, ça parle d'amour, ça parle de la guerre du Vietnam, ça parle de ci, ça parle de ça, parce que la structure de la pièce, c'est très bien fait. On assiste à cette session d'enregistrement, mais il y a des ruptures, il y a des monologues. On rentre dans la tête de tel ou tel. Ils sont tous formidables, vous avez raison. Oui. Moi aussi, j'ai un fait pour Stéphane Varupen que j'avais adoré en bœuf, dans Le Cerf et le Chien.
Dans le Marcel Aimé.
Voilà, et qui là est vraiment merveilleux, cette manière de se frotter le menton, d'être mi-bougon, mi-passionné. Enfin, il est excellent.
Bon, mais
Christophe Montenay aussi, ouais, en Al Cooper, qui va avoir une carrière fulgurante sur un malentendu, puisqu'il s'invite sur le plateau. Et c'est vrai que c'est exactement ça, c'est les petits hasards, les mystères de la création, les rapports de force, les coups de chance, les ratages. Ça en fait quelque chose d'extrêmement émouvant qui se cristallise dans cette magnifique scène où ils sont tous à côté les uns des autres, en train d'écouter la dernière prise la plus réussie jusqu'alors au casque. Et on les voit qui sont totalement synchrones, en train de hocher la tête et d'apprécier chaque moment en ne se parlant pas. Et il y a une image de ce que c'est que la création collective qui est vraiment savoureuse.
Bon, pas de dissensus non plus, parce que si je voulais envoyer voir, c'est parce que j'avais été tellement... réjoui, enfin, c'est un spectacle qui fait beaucoup de bien, qui est extrêmement, qui donne du plaisir. Là encore, c'est vrai que Christophe Montes, que vous en parliez, c'est vrai que je le connaissais pas au moment de la création. Et c'est vrai qu'il a ce rôle de faux naïf et vrai malin, parce qu'en fait, il s'incruste au clavier, alors que personne ne lui a demandé d'être là.
Il montre ses chansons.
Voilà.
Hilarant.
Et Christophe Montes, depuis, bon, il a triomphé, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dans les damnés. Ouais,
c'est le seul que j'ai bien aimé. Donc vous pouvez y aller.
Vous n'avez pas aimé ce spectacle, mais enfin voilà, il est devenu quand même, et effectivement, toujours formidable, Éric Genovese. Les projecteurs, en tout cas, ont été braqués sur lui. Stéphane Varupen, c'est sûr. Mais ce que vous disiez, Fabienne Pascaud, ça qui est important, c'est que c'est un spectacle qui a l'air modeste et qui est en fait d'une extrême subtilité, ingéniosité. Il y a une structure du spectacle. Vous évoquiez ces moments qui traverse comme cela la session d'enregistrement. Il y a cette conférence de presse rejouée par Bob Dylan.
La panne d'électricité.
Enfin, il y a des moments...
À partir de choses concrètes.
Très, ouais. Très. Et alors, ce qui est très réjouissant, c'est de voir Gilles David avec tous ces jeunes gens qui fait évidemment le producteur, l'ingénieur du son, plus exactement.
Le producteur,
j'avais un doute tout d'un coup, mais parfois c'était le même. Et il y a quelque chose qui se passe entre eux qui est aussi quelque chose d'une transmission de génération, parce qu'on est quand même aussi à la Comédie Française. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Sébastien Poudreau, a priori, il ressemble pas vraiment à Bob Dylan, mais il l'est complètement. Parce qu'on dit qu'il joue bien, mais qu'est-ce qu'il chante bien aussi son Dylan. Ce qu'il y a bien, c'est qu'il ne l'imite pas et en même temps, c'est complètement... On retrouve l'original sans que ce soit particulièrement singé. Mais c'est vrai que cette ode
à Woody Guthrie,
à Woody Guthrie, ouais, ce monologue qui est vraiment...
Avec le texte qui s'inscrit et puis finalement qui se rature, qui se biffe.
C'est un Everest, hein.
À l'écran derrière.
Et ouais. Il est facile,
ouais.
Sébastien Ponneron. Tout ouais. a l'air facile avec eux, ouais. C'est ça qui est beau aussi. Fabienne ?
Mais on est peut-être emporté dans la magie finalement. Ouais. On est manipulé nous-mêmes et on trouve beau, parce que le spectacle est beau, on les trouve tous bien.
Ouais. Bah, c'est vrai.
Voilà.
Ils sont tous bien. Et puis il y a quand même Graine Marcus qui n'est pas n'importe qui aussi, qui a la base.
Il y a le mélange, et ce qui est génial, c'est qu'il y a des détails extrêmement prosaïques. Celui qui reçoit le coup de fil de sa femme, qui le plaque, l'autre qui, bon voilà, est là par hasard, on l'a déjà dit. Et puis un phrasé, un parler extrêmement technique. Alors ça, on va la faire en 3-4, ça c'est comme la bamba, même si on n'y connaît pas grand-chose.
Ah oui, quand ils reprennent la bamba, c'est drôle.
Justement, c'est génial, parce qu'on plonge vraiment dans la petite fabrique musicale. Et ça reste extrêmement accessible quand même.
Voilà, un spectacle à recommander à tous, qu'on aime ou pas Bob Dylan, qu'on connaisse ou pas Bob Dylan, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est dit suffisamment dans le spectacle. C'est une chanson qui est vraiment une bascule dans l'histoire de la musique contemporaine, hein, l'électrification de la guitare, et évidemment le sacrilège que ça pouvait représenter pour cette figure éminemment contestataire qui était celle de Bob Dylan à l'époque. Bon, tout ça est raconté dans un spectacle fort court d'ailleurs, au demeurant. Une bascule, ce qui est une qualité, une qualité supplémentaire, comme une pierre qui, d'après le livre de Graine Marcus, Like a Rolling Stone. C'est une adaptation mise en scène de Marie-Raymond et Sébastien Poudreau au studio théâtre de la Comédie Française à 18h30 pour les fins de journée, c'est parfait aussi. C'est jusqu'au 2 juillet. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé Olivier Atlan, le jeu de la dispute, et Justine Dibling nous a rejoint comme chaque soir. Pour nous rappeler, là ça fait loin, le jeu de vendredi soir, quelle était la question, Justine ?
La question était, Marcel Proust s'est inspiré de Cabourg pour décrire une station balnéaire imaginaire dans La Recherche du Temps Perdu, quel en est son nom ? Et la réponse était Balbec.
Oui, c'était pas la question la plus dure de l'année. On fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Grand Final de Fechester, représentation, enfin les places sont à gagner pour après-demain, dépêchez-vous, c'est mercredi 14 juin, 20h30 à la Villette, à Paris, quelle est la question ?
Avant de s'installer en Angleterre pour y monter sa compagnie, dans quelle grande compagnie au Fechester s'est-il formé ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passée comme chaque semaine par Boris Pino. Hello.
Et ce soir, le coup de fil est passé à la Maison de la Culture de Bourges. Bonsoir Olivier Atlan.
Bonsoir Brice.
Vous en êtes le directeur depuis 2011. Alors quand on pense à la Maison de la Culture de Bourges, c'est d'abord une façade qui vient en tête, toute de briques rouges, style art déco, ornée de fresques imaginées par François Popineau. En 2007, le bâtiment ferme pour mise aux normes. À peine entamé, les travaux sont stoppés pour permettre des fouilles archéologiques, un retard est pris, des surcoûts sont prévus et le chantier est finalement abandonné en 2012. La construction d'un nouveau bâtiment sur la place Sérocourt est envisagée, non sans heurts, puis décidée finalement. Avant d'aborder la saison prochaine, hein, une nouvelle saison hors les murs pour la Maison de la Culture de Bourges, une petite question sur ce projet. Les travaux démarreront en 2018, je crois, avec 3 ans de retard pour une ouverture prévue en 2020. J'imagine que c'est un soulagement pour vous qui n'avez connu que cette période oui. houleuse de chantier depuis votre nomination.
Oui, c'est un soulagement parce qu'effectivement, comme vous le signaliez, la décision a été prise tout début 2013 par Aurélie Filippetti et Serge Lepelletier qui étaient alors maire de Bourges. Et que c'est vrai que depuis, il y a eu bien sûr le concours d'architectes, toutes les procédures normales d'un chantier public, avec effectivement quelques oppositions locales, et nous avons perdu effectivement 3 ans, ce qui à l'échelle d'une ville ou l'histoire d'une ville n'est pas une catastrophe, mais en termes de développement local et de mise en place de projets, bien sûr, c'est plus compliqué. Donc oui, un gros soulagement. Les travaux commencent janvier 18, et on peut espérer une livraison définitive, une ouverture au public à l'été 2020.
En attendant ces nouveaux locaux, une sixième saison hors les murs se prépare pour vous à Bourges. La Maison de la Culture investira à nouveau cette année l'auditorium et le théâtre Jacques Coeur. Trois spectacles seront créés la saison prochaine à la Maison de la Culture de Bourges. White Dog, une adaptation de l'œuvre de Gary pour marionnette par la compagnie Les Anges au plafond en début de saison. Jean-Claude Galota proposera une version féminine de son spectacle My Rock en septembre. Ça s'appellera My Lady's Rock. Et Pulse, le nouveau spectacle du chorégraphe Philippe Laurent. Théâtre d'objets et danse, ce sont des formes que la Maison de la Culture de Bourges tient particulièrement à défendre.
Écoutez, c'est vrai qu'on, en tout cas, ce que tient à défendre la Maison de la Culture de Bourges depuis sa création, hein, moi je n'ai rien inventé, c'est surtout d'être un lieu de création. On a une spécificité à Bourges, c'est d'avoir un atelier de construction de décors extrêmement réputé et d'excellente qualité, donc d'être très présent sur des constructions de décors en coproduction, et donc sur une quarantaine de spectacles cette année, on a 14 coproductions et effectivement trois créations, celles que vous pointiez. C'est vrai qu'on a un partenariat particulier depuis un an avec les Anges au plafond, qui était précédemment associé à Châteauroux. Et donc, on va créer ce spectacle White Dog, d'après le livre de Romain Gary, Chien Blanc, sur le département du Cher. Donc, c'est une création qui va être non seulement hors les murs, mais décentralisée. Et on est d'autant plus fiers de les accompagner que, d'ores et déjà, cette création devrait tourner 70 fois en France et en Europe dès la saison prochaine. Donc, c'est des projets sur lesquels on est très fiers d'être associés et de soutenir particulièrement, en tout cas. Ensuite, pour Galota, vous connaissez Jean-Claude, hein, donc c'est vrai qu'il avait depuis quelques années envie de créer My Lady's Rock avec une playlist uniquement féminine, et c'est vrai qu'on en avait discuté quand on avait accueilli My Rock à Bourges il y a 2 ans, et donc il m'a rappelé cet été à Avignon pour me proposer qu'on le crée à Bourges ensemble, donc j'en suis particulièrement ravi aussi. Philippe Lorenzo, dont vous parliez, est un chorégraphe danseur originaire de Bourges, bon, mais qui a tourné avec Charmatz, avec Michel Noiret, avec Christian Rizzo depuis des années, et qui a créé sa première chorégraphie il y a 2 ans à Bourges. Et on s'associe effectivement pour créer la seconde, qui sera plutôt danse-musique.
La Maison de la Culture de Bourges, c'est aussi un espace de soutien à la création. Cet espace, vous l'avez nommé le camp de base. Oui. Il y a des compagnonnages au long cours, celui avec le metteur en scène Frédéric Constant, qui est reconduit. Absolument. À la saison prochaine, par exemple. Mm-hmm. De nouvelles associations sont prévues cette année ?
Ben, cette année, justement, enfin depuis l'an dernier, nous avons les Anges au plafond. On a également travaillé 2 saisons avec Pierre Rigal, que nous accueillons encore cette année avec son spectacle Arrêt de jeu, vous savez, sur ce fameux match perdu contre l'Allemagne à la Coupe du Monde 82. Nous allons sans doute travailler aussi avec la compagnie Turac, avec Camille Rocailleux, qui est un musicien, chorégraphe, dont nous avons accueilli aussi la précédente création « Nous ». Et puis accompagner Mélanie Leray, qui a créé Tribu la saison dernière, spectacle qui devrait vivre encore cette saison et la saison prochaine, et qui a été longtemps soutenue par le Théâtre National de Bretagne. Donc tous ces artistes vont être dans le camp de base, camp de base étant une métaphore plus alpine que militaire, parce que quand je suis arrivé à Bourges, on m'a dit « mais c'est très très militaire », je dis « non, pas du tout, c'est que je viens de Chambéry, et qu'un camp de base est extrêmement important, c'est plutôt un lieu ressource, et là, en l'occurrence, pour les artistes qu'on accompagne. »
Mais merci beaucoup, Olivier Atlan. On vous souhaite une excellente saison 2017-2018, ainsi qu'à toute votre équipe et au public de la Maison de la Culture de Bourges. Merci et belle soirée à vous.
Merci Boris, belle soirée à vous aussi, au revoir.
Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, vous abonner au podcast de l'émission, écrire à l'émission. Vous pouvez le faire aussi via la page Facebook La Dispute FC ou sur le fil Twitter Dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma. Nous serons accompagnés de Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Antoine Guillot. À notre affiche Creepy de Kiyoshi Kurosawa, Wulu de Daouda Koulibaly et Nothing Wood de Sonia Kronlund. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction.